four, la guerre. Aucune bombe n'apporte la paix. La paix ne tombe pas du ciel comme un missile nucléaire. La paix n'est pas une conquête au bout d'une conquête de territoire. La paix est une conquête, oui, mais une conquête culturelle. Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles et réveillez votre conscience. Vive la paix et merci de votre écoute et à la prochaine et bonne fin de journée.
Il est né parmi les abeilles, un enfant de miel et d'orgeat. Chante l'oiseau dessous la treille, voici fleurir le vin muscat. Sont venus quelques diplomates et l'Orphéon des militaires sur un vaisseau plein de pirates. Et l'on chantait, c'était la guerre. Hymne brun des gorges cuivrées, fracas du fer et des poitrines. Dans l'ombre austère des cyprès se sont cachées les mandolines. Sont venus quelques diplomates et l'Orphéon des militaires sur un vaisseau plein de pirates. Et l'on chantait, c'était la guerre. Terre et chair au soleil mêlé, s'en est allée la belle enfance. Les morts fleurissent les allées d'un bien triste jardin de France. Bachelier pressant la bannière, tocard clopant, tambour léger. Où sont ceux-là de la dernière? Les rats, je crois, les ont mangés. Il est mort parmi les abeilles, un enfant de miel et d'orgeat. Pleurait l'oiseau dessous la treille, voici fané le vin muscat. Quoi qu'on dise ou fasse manière, homme ni Dieu n'y peut changer. Où ceux-là de la dernière, les rats, je crois, les ont mangés. Nuit des nuits peuplées d'innocents, les petits morts sont seuls au monde. Réchauffe-les mieux qu'un enfant. L'hiver est long, en outre tombe. Ici gît parmi les abeilles un enfant de miel et d'orgeat. Chante l'oiseau dessous la treille, refleurira le vin muscat.
This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway, I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. And rambled and I followed my footsteps in the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was a-sounding. This land was made for you and me. There was a big high wall there that tried to stop me. A sign was painted, said private property.
Cette émission a été enregistrée le 21 mai 2025.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est Jeudi Nord qui commence ce soir avec le retour heureux de José aux platines, Michel, Jean-Mathias, moi-même, et nous recevons le sociologue Federico Tarragoni, professeur à l'Université de Caen, pour vous parler ce soir du populisme et de tout ce que recouvre cette notion, notamment ses usages, surtout ses mésusages, et les enjeux qui se présentent aujourd'hui face à ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle la montée des populismes en général, et peut-être
ça fait un peu peur.
Voilà, avec un côté angoissant derrière tout ça. Et la question, est-ce qu'il existe un populisme de gauche? En quoi est-ce qu'il pourrait se concrétiser aujourd'hui? Voilà. Donc pour ça, on va laisser Federico peut-être présenter son travail. Donc peut-être commencer par qu'est-ce que c'est que ce populisme et pourquoi il fait peur?
Le populisme est d'abord un très grand malentendu, puisque, faute d'une définition communément admise, c'est un terme qui est maltraité dans la communication politique, qui est utilisé surtout effectivement pour faire peur et pour affirmer, disons, une position sans avoir besoin vraiment de l'argumenter, juste par la peur que suscite l'ennemi qui est rangé derrière la catégorie de populisme. Donc c'est un terme qui est utilisé comme synonyme d'autres concepts qui étaient mieux définis par le passé, comme la démagogie, le nationalisme, le fascisme, le nationalisme dans une définition plus ethnique, plus excluante, qu'on pourrait appeler le nativisme, par exemple. Et donc, suivant les usages, en fait, il recouvre ces différentes notions. C'est un terme qui est utilisé abondamment dans la littérature et dans la communication politique, à tel point qu'il est devenu le mot de l'année en 2016, c'est-à-dire le mot le plus prononcé dans la communication politique mondiale. Et lorsqu'on le prononce, souvent on commet trois écueils qui sont largement sous-estimés. Le premier écueil, c'est qu'on confond, on assimile, on amalgame des mouvements de droite radicale et de gauche radicale en faisant comme si leur usage de l'opposition peuple-élite était analogue, et donc les gens votaient ces mouvements pour des raisons quasiment identiques, qu'ils avaient les mêmes projets, les mêmes programmes, tout simplement puisqu'ils opposent le peuple aux élites. Le deuxième grand écueil qu'on commet, c'est que on confond des choses que la science politique nous apprend à séparer, c'est-à-dire des prises de parole démagogiques, des mouvements sociaux, des partis, des régimes, et y compris des régimes qui sont très différents. Et le troisième écueil qu'on commet, c'est que on méprise la démocratie. Enfin, c'est-à-dire que non seulement on méprise les classes populaires très souvent en défendant l'idée qu'elles seraient dupes du leader populiste qui les illusionne, mais en plus en on défend l'idée que toute critique populaire de la démocratie, toute critique de la démocratie au nom de l'égalité, contre l'oligarchie, etc., serait de fait à bannir du dicible, du pensable, ce qui veut dire, en gros, bannir la démocratie du champ de la démocratie, c'est-à-dire valider une vraie rhétorique antidémocratique.
Et quand tu dis qu'effectivement c'est le mot de l'année en 2016, c'est un mot qui n'est pas nouveau en même temps, c'est-à-dire que c'est des mouvements politiques de contestation, comme tu viens de le dire, des élites ou des oligarchies, qui a une histoire, c'est-à-dire qu'en fait il y a des mouvements qui se sont réclamés dans l'histoire du populisme, qui effectivement émanait du peuple, et qui se caractérisait alors par quoi ? Par une remise en question du pouvoir des élites en place, des élus, des institutions démocratiques libérales, on va dire. Est-ce que c'est sous tous les types de régimes, en fait, qu'on observe ce type de revendication populiste ou pas ? Comment ça se présente historiquement, en fait, sur l'histoire de ce terme ?
Alors, l'histoire est double. Il y a l'histoire du mot et il y a l'histoire des mouvements qui ont repris le mot pour donner sens à leur action politique. L'histoire du mot est assez complexe puisqu'elle se fait en plusieurs langues. Donc, par exemple, l'histoire du mot populisme en russe n'est pas tout à fait la même que le mot latin populisme, qui sera utilisé plus tard, à la fin du XXe siècle, pour notamment définir le style démagogique d'Helsine. Ça, c'est le mot populisme en russe. Et puis, il y a le mot narodnichesbo, qui veut dire les amis de la démocratie, et qui a été traduit par populisme comme le plus proche de ce qu'on peut entendre historiquement par populisme, mais c'était un mouvement de démocrates qui souhaitait soulever les masses paysannes contre l'autocratie tsariste pour créer une sorte de démocratie radicale qui soit à la fois sur le plan libéral la plus avancée possible, sur le plan des libertés, et sur le plan de l'égalité sociale la plus proche possible du socialisme, et voire même de l'anarchisme, c'est-à-dire de l'opposition à un pouvoir d'État, quel qu'il soit.
Ça, c'est fin 19e, à peu près.
Ça, c'est fin 19e. Donc, le mot apparaît dans les cercles intellectuels russes dans les années 1870 pour classer, en fait, le mouvement qui va vers les campagnes et qui est composé d'étudiants, d'intellectuels, de beaucoup de femmes qui réclamaient aussi la libération sexuelle et la lutte contre le patriarcat. Donc, ils vont être qualifiés de populistes. Et puis, les marxistes s'en emparent aussi comme un mot pour les stigmatiser. Donc ça apparaît à la fin du 19e siècle.
Ils sont concurrents, ça, des partis
absolument,
liés à la Première Internationale.
Voilà, les bolcheviques, avec Lénine, vont dire les populistes ont fait des erreurs stratégiques puisqu'ils ont visé les campagnes au lieu de viser le prolétariat qui est le sujet révolutionnaire par excellence. Et puis il y a l'histoire du mot populisme en français qui est tout à fait différente parce que le mot apparaît en réalité pour la première fois à la fin du 19e pour qualifier la campagne électorale américaine du People's Party, qui est le premier parti populiste de l'histoire. Mais là, c'est pas un usage très intéressant puisque c'est juste une traduction de l'américain, de populisme. Par contre, le mot, il apparaît de façon plus forte en français pour qualifier le roman populiste, c'est-à-dire une avant-garde littéraire créée par Terry Vallemonnier dans les années 30 pour définir en fait un nouveau projet de roman qui devrait mettre au centre la psychologie des classes populaires oubliées dans le roman bourgeois de Flaubert, Stendhal et les autres. Donc une sorte de d'évolution du réalisme littéraire et d'ailleurs des grands écrivains auront aussi le prix du roman populiste comme Sartre et le d'ailleurs c'est assez symptomatique le nom de ce prix ait été supprimé et changé en prix Eugène Daby, premier lauréat de ce prix à la fin justement du XXe siècle parce que le mot était devenu trop insultant, voilà. Et puis il y a l'histoire américaine. Alors, l'histoire américaine de populisme est aussi différente puisque le mot est inventé en fait par l'un des élus de ce nouveau parti, le People's Party, dans un voyage de train à Topeka, donc dans le Kansas, pour justement donner un nom aux militants de ce parti, puisqu'il y avait les Républicains qui avaient un nom, les démocrates qui avaient un nom, et le People's Party n'avait pas un nom synthétique pour définir leurs militants. Alors, il y a un journaliste et un membre du Parti démocrate qui leur dit « Mais pourquoi vous définissez définissait pas pampliste. Hein. Donc ça, c'est l'histoire du mot. Et puis, il y a l'Amérique latine qui est une autre histoire, hein, où justement, le mot est réinventé dans les années 60 par les sciences sociales pour définir des régimes politiques, comme le péronisme en Argentine. Et puis, il y a évidemment les mouvements qu'on peut classer derrière ce mot, et ce sont ces mouvements-là, enfin, le cas français est différent, mais c'est essentiellement le populisme russe, le populisme états-unien et les mouvements nationaux populaires en Amérique latine qui ont repris ce terme nouveau, ce néologisme, pour en faire, disons, un label de leur identité politique, de leur manière d'agir, quoi.
Et du coup, par rapport à ça, du point de vue de l'histoire, de ce terme-là, deux questions là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces mouvements-là? Est-ce qu'ils ont un truc en commun? L'ancrage rural, je sais qu'aux États-Unis, en fait, c'est un mouvement aussi qui mobilise beaucoup les fermiers contre les petits propriétaires, contre les expropriations, contre la mise en place aussi de la révolution industrielle et des oligarchies industrielles. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est cet ancrage rural-là, en fait, qui définit peut-être une espèce de commun assez parti? Et du point de vue politique maintenant, tu l'as dit, en fait, c'est des mouvements qui se retrouvent aussi en concurrence, peut-être aussi avec le mouvement ouvrier, avec des mouvements politiques marqués par un projet socialiste qui, bah, historiquement, sont plutôt liés, eux, à des mouvements liés à l'industrie, en fait, à la civilisation industrielle, et qui remettent en question les institutions démocratiques qui prennent pas en compte, en fait, ces nouvelles problématiques-là. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a de commun, finalement? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun à tous ces mouvements-là? Et comment ils se situent par rapport, bah, par exemple, à la tradition du mouvement ouvrier, révolutionnaire ou pas, d'ailleurs?
Alors, du point de vue sociologique, on a longtemps pensé que leur caractéristique commune était leur ancrage rural. Mmh. Et effectivement, ça marche avec le cas russe et avec le cas américain. Ça marche en même temps à moitié, parce que les activistes russes sont des intellectuels, sont des membres qu'on pourrait appeler aujourd'hui des classes moyennes, très très éduquées et très urbains, qui certes se déclassent pour aller dans les campagnes, militer dans les campagnes et soulever la paysannerie. Donc, par exemple, on a des professeurs d'université qui deviennent des artisans, des filles de l'aristocratie russe comme Vera Figné ou Vera Zasulich qui deviennent infirmières. Bon, ça, c'est très intéressant, cette stratégie de l'autodéclassement. C'est propre aux populistes russes. Donc, c'est pas tout à fait un mouvement de paysans. Il y a eu très très peu de soulèvements de la paysannerie. Et les populistes russes se sont ensuite greffés, en réalité, au mouvement ouvrier naissant à Saint-Pétersbourg. Le cercle Tchaïkovski, qui était un des premiers mouvements ouvriers, disons, de l'histoire russe. Dans le cas américain, c'est beaucoup plus évident, parce que là, on a affaire à des mouvements paysans qui sont structurés en coopératives, un projet très intéressant, d'ailleurs, des coopératives d'échange, de prêts, avec une dimension culturelle, des cabinets d'éducation populaire. Enfin, c'est le projet des Farmers Alliance, c'est vraiment un projet intéressant, hein, du point de vue de la coopération paysanne. Donc on retrouve un peu aussi la trace de Kropotkine, hein, qui est une figure du populisme russe et qui est appliquée en quelque sorte dans ces mouvements coopérativistes américains. Mais par contre, on ne retrouve pas cette dimension rurale dans le cas latino-américain, parce que là, on a affaire à des mouvements ouvriers très urbains. Donc c'est pas tellement les caractéristiques sociales qui les définissent, mais plutôt leur projet politique. Leur projet politique est de donner naissance à une démocratie radicale, une démocratie ramenée à sa racine libertaire et égalitaire, contre des gouvernements qui sont dominés par des oligarchies et par des États très autoritaires. Dans le cas russe, vous avez le tsar qui parle au nom du peuple russe. Et la perspective des populistes russes, c'est de constituer une démocratie qui soit radicalisée, y compris par rapport au modèle libéral qu'ils lisent et dont ils se sentent proches par leur lecture. Ils sont très proches de, par exemple, des socialistes français et des libéraux européens. Dans le cas américain, il s'agit de redémocratiser la République, d'avoir une vraie République égalitaire contre le pouvoir des trusts et ce bipartitisme inamovible qui est en fait devenu le symbole du 1%, pour utiliser le terme de Occupy Wall Street, qui est un mouvement qui est dans cette continuité. Et dans le cas latino-américain, vous avez effectivement des mouvements ouvriers qui cherchent à mettre en place une démocratie sociale, une démocratie providentielle, un État-providence qui n'existait pas auparavant et où ils ont complètement pris la place, pour répondre à ta question, des mouvements socialistes. Parce que les socialismes ont été historiquement très faibles en Amérique latine, pour des raisons qu'on peut aborder si vous voulez. C'est le cas aussi en partie aux États-Unis, même s'il y a eu une jonction à un moment donné entre les socialistes et les populistes. Et clairement, en Russie, les bolcheviques ont retracé la voie qu'avaient déjà pré-tracé les populistes en changeant de sujet politique et d'idéologie aussi, de projet politique.
Donc tu dirais pas de concurrence, mais plutôt en fait un projet politique plus marqué par le libéralisme et qui prend la place en Amérique latine. Oui, en fait, il prend la place parce qu'il n'y a pas en réalité de tradition socialiste de masse vraiment. Par contre, aux États-Unis, bon, plus compliqué, et russe, absorbé finalement par le mouvement socialiste russe, d'une certaine manière, ça serait ça.
Alors il y a une grande différence,
je dirais.
Il y a une grande différence. En gros, pour schématiser. Le socialisme marxiste, il met en avant l'abolition du capitalisme, et de cette abolition du capitalisme dériverait une meilleure démocratie. Le populisme fait la stratégie complètement opposée. Il faut d'abord démocratiser la démocratie, ou avoir une version radicalement libertaire, égalitaire de la démocratie, quitte ensuite à abattre ou à améliorer le capitalisme. C'est pour ça qu'ils ont été souvent définis par leurs critiques à gauche, anarchistes ou surtout marxistes, comme des réformistes, comme des gens qui voulaient juste réformer le système sans le changer. Et ça, du côté américain, c'est parfaitement évident. Les paysans américains, ils veulent absolument pas abattre le système capitaliste, ils veulent juste démocratiser la consommation et la production et la monnaie, qui est l'outil de la domination par excellence capitaliste aux États-Unis.
Très bien, merci. On va peut-être faire une petite pause musicale et se retrouver juste après.
Alors, on écoute un extrait d'une marche péroniste lors d'une manifestation dans les années 2000. Voilà, Los Muchachos Peronistas.
Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est Jeudi Noir qui recommence ce soir. On est avec le sociologue Federico Tarragoni pour parler populisme. Et Federico, tu nous expliquais là la trame historique un peu du terme populisme. C'est ce que tu expliques en partie dans ton livre L'esprit démocratique du populisme, qui est paru en 2019 chez La Découverte. Et donc tu mentionnais trois cas historiques, en fait, qui font assez consensus sur le fait que ce soit du populisme. Le cas états-unien avec le People's Party, le cas russe avec
le Nalogy Chest,
voilà. et l'Argentine de Perón.
Enfin, l'Amérique latine, les mouvements nationaux populaires en Amérique latine, ouais, dont le péronisme est un prototype.
Et du coup, par rapport à ça, il y a un enjeu, donc on revenait un peu là-dessus, un enjeu de définition, parce que le populisme, c'est une notion qui est utilisée et surutilisée, et on ne sait pas très bien ce que ça définit. Donc toi, tu fais un retour en arrière en prenant ces cas historiques et en faisant un espèce d'idéal type, en fait, pour donner une définition conceptuelle rigoureuse, en fait, de ce qu'est le populisme. Et à quoi tu aboutis, à quelle définition tu aboutis ?
Alors d'abord, juste avant d'arriver à la définition, pour donner un peu de suspense, il y a un quatrième cas qui est souvent abordé, notamment en France, qui est le cas du boulangisme. Pourquoi je l'exclus ? Je l'exclus parce que le boulangisme, même s'il a pu donner lieu...
Juste en deux mots, l'épisode boulangiste, ouais, pour les auditeurs qui sont absolument pas au fait.
Alors le boulangisme est une crise politique de la Troisième République qui survient à la fin des années 1880, autour d'un général, le général Boulanger, qui est donc ministre de la guerre et qui, pendant quelques années, active une sorte de campagne électorale éclair qui marche très très bien, notamment dans certaines campagnes et surtout dans les villes ouvrières, hein, donc dans le nord de la France et à Paris. Et donc on a pu mettre ce cas dans l'histoire du populisme parce que Boulanger était une figure très démagogique, très haute en couleur, parce qu'il a inventé une campagne électorale très moderne avec une sorte de distribution de petites cartes postales à son effigie, des chansons, enfin on est vraiment dans la mass politics très, très contemporaine. Et en même temps, et aussi, enfin, quand on regarde les dynamiques de politisation des classes populaires, on a des choses assez proches. Enfin, c'est un mouvement qui s'inscrit dans une tradition de républicanisme critique qui remonte à la Révolution française. C'est une grande référence des boulangistes. Et leur projet, c'est celui de réformer la Troisième République, de demander une assemblée constituante et de faire voter par le peuple une nouvelle constitution qui serait en accord avec la constitution de la Révolution française. Hein. Donc, bon, Sixième République, la France insoumise, bon, voilà, vous voyez, il y a quand même des affinités et on est dans un républicanisme affiché, c'est-à-dire on est républicain, on est pour les libertés, l'égalité, la souveraineté du peuple, la souveraineté démocratique du peuple. Donc pourquoi l'exclure ? Bah, tout simplement parce que Boulanger n'a jamais dit ce qu'il aurait fait s'il était allé au pouvoir. Et il a eu l'occasion de le dire, puisqu'on l'a auditionné à la Chambre des députés en 1888, si ma mémoire ne fait pas défaut, et on lui a posé la question, quel est le sens de cette réforme constitutionnelle ? Enfin, vous ne faites pas juste une tabula rasa des institutions, vous allez dans un sens. Et il s'est toujours refusé à répondre, prétextant que c'était pas un grand idéologue, un grand connaisseur de politique, c'était plus le symbole du mouvement et qui laissait à d'autres la charge de définir le programme. Mais au fond, c'est un mouvement qui n'a jamais défini de programme, qui s'est réduit à la question changeant de constitution, laissons décider le peuple et puis on verra ce qu'il advient. Et donc évidemment, le soupçon que ce qu'il aurait advenu, ça aurait été un régime très incarné, très autoritaire autour de cette figure par ailleurs militaire, évidemment ne peut pas être éliminé. Par ailleurs, Zef Sternel, historien qui a beaucoup travaillé sur le boulangisme, on a pu dire à la fin de son étude que pour lui c'était vraiment la naissance de l'idéologie fasciste, hein, qui se situe en France et pas en Italie, et c'est un parcours qui est assez proche de celui de Mussolini dans les années 20, hein, qui bat de la gauche vers un régime autoritaire. Donc maintenant, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces trois mouvements historiques qui tous se sont emparés du terme, chacun dans le contexte de son temps et de son espace. Ce qu'il y a de commun, c'est justement d'être tous issus d'une crise, qui est la crise d'une démocratie, d'une modernité démocratique, et l'émergence donc d'une conflictualité sociale très hétérogène, hein, qui réunit effectivement des paysans, des ouvriers, des classes moyennes, des intellectuels déclassés, et qui revendiquent tous une démocratisation de cette démocratie, tout en ayant des intérêts très divergents, des intérêts de classe très divergents. En fait, ce qui est commun, c'est que le populisme est un moment de crise de la démocratie représentative libérale, qui arrive en quelque sorte à ses limites, puisque, étant parasité par une dynamique oligarchique, eh bien, elle devient le régime d'une élite, pour une élite et par une élite. Tout en étant, par ailleurs, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et donc, vous avez des mobilisations qui réclament, au fond, le retour d'une sincérité, d'une authenticité démocratique. Et en même temps, c'est quelque chose qui est intrinsèque dans la dynamique de la démocratie elle-même, de produire ce genre de crise. Parce que la démocratie telle qu'elle s'est instituée sous une forme libérale et représentative a eu cette dynamique oligarchique dans son ADN. Et donc, c'est pourquoi la démocratie peut toujours produire ce type de conflictualité populiste, mais aussi, et c'est complètement différent, une conflictualité tout à fait différente, une idéologie tout à fait différente, qui est l'idéologie fasciste, qui, elle, vise à sortir de la démocratie. C'est toute la différence, justement, entre, disons, des mouvements qui sont ancrés dans l'histoire de la gauche, comme le populisme, et des mouvements qui sont ancrés dans l'histoire de la droite, du nationalisme et du fascisme, et qu'on tend à confondre en parlant de populisme de gauche et populisme de droite, comme si c'était la même matrice, alors qu'ils viennent d'histoires complètement différentes et de dynamiques de crise de la démocratie complètement différentes.
Et juste pose une question quand même par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, en fait, parce que tu dis, dans tous les cas, en fait, ce que tu retiens, toi, comme revendication structurante, en fait, de ces mouvements-là, c'est démocratiser la démocratie, voilà, intervenir sur une situation de crise de la démocratie représentative libérale. Cela dit, en fait, tu l'as dit, dans le cas russe, c'est pas le cas, parce qu'on n'a pas une démocratie libérale en face. En Amérique latine, c'est aussi une situation qui est un peu différente. C'est pas non plus le paradis des démocraties libérales au moment où on a ces mouvements-là. Donc ça vaut surtout pour le cas américain, en fait, ce que tu dis. Et ça se traduit finalement en termes programmatiques, en termes d'orientation politique, sous quelle forme. En fait, c'est un programme de réforme institutionnelle constituant, comme tu disais tout à l'heure, en termes de contenu politique.
Alors là, il faut rentrer un tout petit peu dans les archives. Je vais essayer de le faire de façon la plus rapide possible. Pour le cas russe, étant donné qu'on a affaire à une multiplicité d'acteurs et même à, disons, une division des populistes russes entre la tendance légaliste, qui est la tendance qui vient de cette croisade vers les campagnes, convaincre le peuple par des moyens pacifiques, et la tendance qu'on pourrait appeler nihiliste révolutionnaire, qui a été définie aussi terroriste, donc celle qui va utiliser la bombe comme outil de propagande et qui va tuer le tsar.
Propagande par le fait.
Voilà, propagande par le fait. Et qui va tuer le tsar en mars 1883. Mais bon, donc on a une multiplicité d'acteurs, on a Kropotkine, on a Bakounine, Mikhaïlovski, Herzen, Verafinier, enfin c'est toute une constellation, et beaucoup ont dit, bah il n'y a pas beaucoup de choses en commun, si ce n'est ce projet justement de restituer la démocratie au peuple et de mettre en avant le principe de l'égalité par excellence, qui est l'égalité dans la terre. Donc c'était ça leur idée, hein. Leur principe socialiste, c'était de redistribuer aussi les terres. Bon, le seul document qui permet de comprendre ce qu'ils voulaient vraiment, c'est la lettre qu'ils ont envoyée au tsar, au nouveau tsar, Alexandre III, après avoir tué son père. Et dans cette lettre, ils disent, nous, ce qu'on veut, c'est tout simplement la Révolution française. C'est-à-dire, on veut une assemblée nationale élue sans entrave, dans un état de totale liberté d'opinion, de programme. Donc on ne veut pas être persécuté par la police étatique, parce qu'ils avaient subi la répression du tsar pendant des années. Donc on veut une assemblée nationale avec des élus sur tout le territoire. C'est ça, la souveraineté démocratique du peuple. Et puis, à partir de là, il faut enclencher une dynamique, ça ils ne le disent pas explicitement, mais c'était dans leur programme précédent, d'égalisation de la société grâce à la commune rurale, la fameuse Obchinia, qui avait tant tenté Marx dans ses écrits sur la commune française, lorsqu'il lisait les populistes russes et il s'en inspirait pour comprendre ce qui se passait en France au moment de la commune. Si on prend les États-Unis, ben là c'est assez évident, hein, ils veulent une république des producteurs, c'est-à-dire une république avec plus d'égalité sociale, une politique monétaire plus en accord avec le travail des producteurs. Ils ont tout un tas de demandes aussi institutionnelles, plus de turnover politique, le référendum, l'introduction du suffrage secret. Et puis si on regarde du côté de l'Amérique latine, là, effectivement, le projet, c'est celui d'abord de mettre en place une démocratie représentative qui marche, c'est-à-dire pas de fraude, pas de corruption électorale, transparence. On ne va pas voler l'élection, parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'à l'époque, en Amérique latine, dans les années 20-30, on avait des notables qui volaient les élections. Hein. Enfin, il n'y avait pas de contrôle, donc on avait vraiment des républiques plutocratiques, très liées au capital américain, ou multinational, etc., donc à l'exploitation. Et puis, deuxième chose, ils veulent des droits sociaux, qui vont être même constitutionnalisés dans le cas argentin. Hein. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans les discours de Perón, vous avez cette espèce d'association étrange entre deux thématiques qui sont, pour nous, complètement dissociées. Perón, il dit « Mon projet démocratique, il tient dans le fait que le peuple puisse voter pour quelqu'un qui va appliquer ce qu'il veut. » Donc ça, c'est une démocratie représentative authentique, on va dire, et où il n'y a pas de fraude. Hein. Et de l'autre côté, les droits des travailleurs, ils doivent être constitutionnalisés pour qu'ensuite le peuple puisse s'en emparer pour les faire avancer, pour faire avancer l'égalité sociale. Donc des choses qui... Enfin, le combat contre la fraude et l'État-providence, que Perón rallie comme étant la matrice démocratique de son programme. Donc, il s'agit au fond de démocratiser des républiques oligarchiques, à la fois sur le plan du suffrage. N'oublions pas que Perón est le premier à être élu au suffrage universel, hein, avec le droit de vote des femmes. C'est le cas pour d'autres populistes dans d'autres pays en Amérique latine. Le parti du populiste équatorien Velasco Ibarra s'appelle Junte pour le suffrage universel. Hein, donc c'est ça, ils veulent élargir le suffrage, ce qui apparaît aussi chez les populistes américains. Hein, ils sont pour le droit de vote pour les femmes et en même temps les droits des travailleurs.
Et donc beaucoup moins de programmes ou de réformes sur le terrain économique, pour le coup.
Ah bah si.
On est, enfin, alors droits sociaux, vas-y, si tu peux préciser ça, du coup, on n'est pas juste sur le terrain institutionnel, c'est pas juste sur un contrôle démocratique des représentants plus rigoureux, en fait, pour pallier aux dérives oligarchiques de ces systèmes-là. Il y a aussi, en fait, un réformisme du point de vue économique.
Absolument, et c'est bien un réformisme. Hein. C'est pas... Je veux dire, Perón, il a absolument aucune intention d'abattre le système capitaliste. Il est très lié à tout un tas d'intérêts. En même temps, c'est, en Argentine, l'un des présidents qui a mené la lutte la plus forte vis-à-vis de ce qu'on appelle l'aristocratie bovine, à une époque où l'Argentine construit son économie sur l'exportation de viande. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment lutté contre les intérêts des lobbies, enfin des élites économiques. Le programme, il y a un axe, disons, institutionnel, tu l'as dit. Perón, par exemple, il lance en 51 un programme programme qui s'appelle Péronne veut savoir ce dont le peuple a besoin, qui va donner lieu à 15 000 lettres d'habitants qui vont dire voilà, on a besoin de ça, nous, nos voisins, ils ont besoin de ça, on propose telle initiative législative. C'est fascinant, enfin, c'est dans les archives de Buenos Aires, des milliers de lettres de gens qui interpellent les
cahiers de doléances.
Voilà, c'est un peu comme les gilets jaunes, sauf qu'ils sont demandés par les politiques publiques. Et parfois,
il n'a pas demandé ça à Macron aussi.
Il a eu un grand débat, non?
Oui, il a demandé.
Voilà, bah, on n'est pas très loin. Et puis, il y a le volet, on va dire, socio-économique. Donc, les droits des travailleurs, les conventions du travail, l'égalité l'égalité conjugale. Hein. Enfin, l'Argentine est le premier pays à mettre en place l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes quand ils travaillent. Et puis, voilà, les congés payés. Enfin, je vais dire tout le lot des droits des travailleurs. Et puis il y a des droits culturels, hein, avec par exemple démocratisation de la culture, beaucoup d'instituts de culture populaire, l'institut de cinéma. Enfin, je vais dire, le péronisme est aussi un entrelac d'associations culturelles qui visent à démocratiser la culture en milieu populaire et à populariser la culture.
On va refaire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
Alors, on va écouter Ay Democracia de Javier Crae, un titre espagnol qui a su traduire certaines préoccupations des mouvements populistes en Espagne.
Me gustas democracia porque estás como ausente. Con tu disfraz parlamentario, con tus listas cerradas, tu rey tan prominente, por no decir extraordinario. Tus escaños marcados a ocultas de la gente, a la luz del lingote y del rosario. Me gustas, ya te digo, pero a veces querría tenerte algo más presente, tocarte, palparte, echarte fantasías. Te toco poco últimamente, pero en fin, ahí estás. Mucho peor sería que te esfumaras como antiguamente. Los sesos rebozados de delfín, que Franco se zampaba en el azor, nos muestran hasta qué grado era ruin el frígido y cristiano dictador. El frígido y cristiano dictador. Fue un tiempo de pololos, tinieblas y torturas. Volvamos a aquí y ahora, donde tu democracia, ya sé que me procuras alguna ley conciliadora. Pero caes a menudo en sucias imposturas, fealdades que el buen gusto deplora. Como el marco legal siempre le queda chico, y el rico a eso es muy sensible, si tirando, aflojando, empleando un tiempo y pico, se hace un embudo más flexible.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui recommence ce soir et on est avec Federico Tarragoni. On discute populisme, quels aspects cette notion recouvre. Là, tu nous disais, Federico, que de par ton travail, que tu établissais quelques points communs en fait aux trois grandes expériences reconnues du populisme, notamment le populisme provient d'un moment de crise de la démocratie représentative, où on demande davantage de démocratisation, notamment des institutions, et ça se traduit souvent par ça, et il se caractérise aussi par une avancée des droits pour les individus, dont notamment des droits sociaux, des droits économiques, culturels, etc. Donc ce serait ça, en fait, qui forgerait un peu l'essence des mouvements populistes dans l'histoire. Et on pourrait se poser la question de savoir ce qu'il en est aujourd'hui quand on parle justement de la menace populiste qu'on assimile souvent justement le populisme à une menace, et en amalgamant justement un populisme qui serait de gauche ou un populisme qui serait de droite, pour souvent qualifier en fait des positions d'extrême droite. Voilà, qu'est-ce qu'il en ressort aujourd'hui, comment ça se traduit, comment c'est perçu?
Alors, l'actualité en fait de ce terme, évidemment, est sous nos yeux. Avant même, en 2016, qu'il devienne le mot de l'année, depuis la fin du 20e, en fait, il est revenu d'actualité pour classer en fait un certain nombre de partis qui collaient plus avec, enfin du moins selon les gens qui utilisaient le terme populisme, national-populisme à l'origine, avec la grille gauche-droite. Parce que ils avaient apparemment des traits à la fois des partis de gauche et des partis de droite. Enfin, un exemple qui m'est familier, c'est la Ligue du Nord en Italie, qui à ses débuts était un parti régionaliste antifiscal, donc plutôt de droite, on dirait, enfin un peu la tradition antifiscale nationaliste, et en même temps il était aussi anticorruption et avait participé au mouvement autour de Manipulite, du scandale qui avait touché la classe politique italienne, en ayant une position assez proche de la gauche. Bon, un autre exemple, le Front National, à ses débuts, semblait conjuguer des éléments de droite, puisqu'il descendait de l'Action française, en voie quasi directe, et des éléments apparemment de gauche, puisqu'il avait une position sur les droits sociaux des travailleurs qui semblait plutôt proche de la gauche. Bon, évidemment, il y avait beaucoup d'erreurs dans ces diagnostics. En tout cas, le terme populisme est venu définir quelque chose de façon assez simple. Bon, ces gens-là, ils partagent une même façon d'appeler au peuple, d'invoquer le peuple contre les élites. Ce sont des démagogues, des leaders charismatiques. Et donc c'est quelque chose qui est transidéologique, hein, comme je le dis dans mon livre. Il est proche, il est tant de droite que de gauche. Hein, enfin, à tel point qu'il est ni plus de droite ni plus de gauche, vraiment. Hein, bon. Donc évidemment, on est dans la suite de cette histoire. On est dans la suite de cette qualification des populismes comme étant une même matrice, peuple contre élite, chez Mélenchon, chez Le Pen. D'ailleurs, on dit souvent, bah voilà, Mélenchon fait le jeu de Le Pen. Bon, il y a une sorte de fil commun qui passerait entre les deux. On s'amuse à trouver chez Mélenchon des traits de Le Pen, à trouver chez Le Pen des traits de Mélenchon. Bon, ça a été un travail quasi constant, hein, de la part des médias, mais y compris des sciences sociales et politiques, hein, de défendre cette espèce de théorie du fer à cheval, hein, qui était très très présente, hein, dans la science politique autour du concept de totalitarisme, hein, qui a été traité d'une façon assez similaire, hein, dans les années 80. Et puis, en Amérique latine, on a vécu effectivement une renaissance du populisme dans la tradition classique, hein, je disais le péronisme et d'autres mouvements, avec le tournant à gauche, avec le chavisme au Venezuela, Evo Morales en Bolivie et Correa en Équateur, c'est-à-dire des mouvements qui étaient dans la lignée d'une histoire, là pour le coup parfaitement claire, hein, enfin parfaitement ancrée, disons, dans la tradition de gauche. Et à partir de ce renouveau, disons, de la gauche en Amérique latine de façon populiste, il y a eu tout un tas de travaux qui ont cherché à exporter, disons, la stratégie latino-américaine en Europe sur la base d'un diagnostic qui était le suivant. En Amérique latine, il y a eu des révolutions citoyennes très urbaines qui revendiquait des droits sociaux qui avaient été éliminés par les politiques néolibérales et austéritaires, des services sociaux de proximité, des villes plus égalitaires. Hein, donc vous reconnaissez peut-être le programme de Jean-Luc Mélenchon, voilà, les révolutions citoyennes et tout ça. Et donc effectivement, en Europe, on avait vécu des mouvements très urbains qui revendiquaient des choses assez similaires, hein, contre la paupérisation et la précarisation néolibérale. Des centaines de jeunes et moins jeunes, de classes moyennes, on voit des déclassements, mais aussi beaucoup de chômeurs, avaient occupé des places, hein, en Espagne, les indignés.
Ça, tu parles des mouvements des années 2010, là.
Voilà, hein, dans les années 2010. Et donc, on a fait une sorte de télescopage. On a dit, bon, bah voilà, on va appliquer la même stratégie et on va faire la même chose que ce qui s'est passé en Amérique latine. Et donc, il y a eu là aussi des populismes qui se sont construits avec Podemos en Espagne, la France insoumise, hein, qui a changé complètement sa stratégie par rapport à l'ancien Front de gauche, par rapport justement à ces mouvements anti-néolibéraux, ces mouvements citoyens, Syriza en Grèce, et le mouvement 5 étoiles en Italie, qui vient d'un mouvement similaire, même s'il n'y a pas eu vraiment d'occupation de place, c'est le mouvement des référendums des années 2007-2008. Et évidemment, Occupy Wall Street, mais qui n'a pas généré de parti populiste, mais qui a généré une gauchisation de l'aile progressiste du Parti démocrate, enfin les Justice Democrats, hein, ça s'appelle aux États-Unis. Donc il y a eu cette actualité, voilà, qui a en quelque sorte changé le sens du terme, puisqu'on avait d'un côté, pour aller vite, hein, des libéraux centristes qui disaient le populisme c'est le mal absolu, c'est en gros la radicalité commune à la gauche et à la droite, vive Macron, et de l'autre côté, voilà, sur la base de ces expériences latino-américaines et de ce moment post-crise des subprimes en 2008, post-néolibéral en Europe, voilà, des nouveaux partis qui ont réinventé une gauche populiste différente de la gauche marxiste traditionnelle.
Et dans ces mouvements-là, le point commun, une fois encore, tu vois cette idée de révolution citoyenne. Alors ça marche assez bien pour Mélenchon, qui se réclame d'ailleurs effectivement du populisme sud-américain et de ses théoriciens. Il y a ça. Alors après, Podemos, ils ont quand même ils avaient un logiciel qui était en fait très marxiste au départ, quand même. Ils ont cette formation-là. Alors après, effectivement, il y a le mouvement d'occupation des places, il y a la prise de pouvoir par les communes, hein, essentiellement, notamment les grandes municipalités en Espagne. Hein, il y a eu cette vague-là qui a reflué depuis. Syriza, c'est la même tradition. Toi, tu verrais ça aussi de la même manière. J'ai juste une petite... c'est une question que je pose, parce que il y a effectivement des références communes assez évidentes, et en même temps, est-ce que c'est vraiment des situations politiques qui sont comparables? Syriza, ils arrivent, ils prennent le pouvoir pour le coup, ils prennent le pouvoir, enfin, avec une majorité large, dans une situation alors qui n'est pas simplement une situation de corruption oligarchique dans leur cas. Il y a évidemment la problématique face à l'Union européenne, de l'endettement, qui change peut-être aussi un petit peu les choses. Alors oui, il y a effectivement une espèce d'aspiration à redonner la voix au peuple à chaque fois. Est-ce que ça suffit à définir une espèce de moment populiste comme ça, là, dans ces années 2010, 2013, 2014, jusqu'à en fait la chute de Syriza, en réalité, en Grèce?
Moi, ce qui est commun, c'est le contexte. On a affaire à quatre contextes où, on l'a rarement dit, il y a des partis socialistes au pouvoir dans les quatre pays qui appliquent des recettes néolibérales et austéritaires. Il y a Papandreou en Grèce, il y a Renzi en Italie, il y a Hollande en France et il y a Zapatero en Espagne. Donc ça, c'est le contexte commun. C'est-à-dire des partis socialistes qui font volte-face par rapport à leur base électorale et par rapport à leur programme historique. en faisant du socialisme libéral qui est, disons, qui n'est rien d'autre que du néolibéralisme, c'est-à-dire une marchandisation généralisée de la société, une précarisation des droits des travailleurs et une dynamique très inégalitaire hein, qui est complètement revendiquée. Hein. Alors évidemment, ces partis viennent d'histoires différentes de la gauche et des galaxies de la gauche. Donc Syriza, c'est une fusion de plusieurs groupes de la gauche radicale. Hein. D'ailleurs, ça veut dire littéralement ça, c'est une sorte de cartel des gauches radicales. La France Insoumise, c'est une évolution stratégique au sein d'un même parti. Podemos, c'est un nouveau parti d'intellectuels très, très, disons, fécondé par l'Amérique latine. Hein. Enfin, n'oublions pas qu'Iglesias travaille dans une sorte de think tank chaviste juste avant d'aller au pouvoir et que Rejón fait sa thèse sur Morales. En Italie, on a pour le coup quelque chose d'assez original, puisque c'est un nouveau mouvement qui est à la fois irrigué par les écologistes et par des habitants concernés, hein, des sortes de mouvements de démocratie participative, avec une vraie passion pour les technologies digitales et numériques. Et donc, ça va donner lieu à un mouvement de référendum. Ils vont organiser des référendums, 6 référendums, notamment autour des questions de corruption de la classe politique, de financement des partis, de financement des journaux, donc d'usage de l'argent public. Et donc, ils sont contre, effectivement, la dérive plutocratique d'un État aux dépens des intérêts, disons, de la majorité. Et puis, ça va devenir un parti digital, hein, donc le mouvement 5 étoiles avec ses caractéristiques un peu singulières. Donc, et puis évidemment, ces partis ont des régimes politiques différents. C'est-à-dire que vous avez 3 régimes parlementaires où effectivement il est possible d'arriver au pouvoir moyennant des coalitions. Syriza n'a pas eu besoin de faire des coalitions. Podemos a fini par faire coalition avec le PSOE qu'il a complètement digéré. Dans le cas italien, pareil. Enfin, les coalitions ont été terrible, puisque le premier gouvernement, c'est un gouvernement Mouvement 5 étoiles Ligue, du fait que le Parti Socialiste a refusé tout accord avec les 5 étoiles au mois de juillet et que le Mouvement 5 étoiles s'est trouvé face au dilemme d'organiser des nouvelles élections et donc de montrer qu'ils étaient incapables de gouverner ou de s'allier avec le seul potable qui acceptait de s'allier avec eux. Et puis dans le cas français, évidemment, vous avez un régime présidentiel avec une élection à double tour où il est quasiment impossible pour un tiers parti d'accéder au pouvoir. Et donc, même en faisant 22% au premier tour, vous voyez la complexité de ça.
Et du coup, alors, à ce moment-là, effectivement, 2010, mouvement des places, et que tu viens de rappeler, avec ce contexte face à des gouvernements de gauche affaiblis et trahissant en quelque sorte leur héritage historique, on va dire ça comme ça. Après, il y a un autre mouvement derrière, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une espèce de, il me semble quand même, parce que bon, dans le trois des cas, en fait, ça débouche sur une défaite de la gauche au pouvoir, quand même, et un renforcement aussi de dynamiques qui sont elles, pour le coup, très à droite. Et qui cherche aussi, d'une certaine manière, à capter une partie de cette légitimité contestataire d'un ordre démocratique libéral, mais avec un tout autre programme que les mouvements dont tu nous as parlé. Alors en France, c'est plus ambigu, parce qu'il y a ce moment, il y a le moment Gilets jaunes, qui pour le coup, mais qui est ambigu en fait du point de vue de ses revendications et de ses dynamiques. Et donc alors sur ce moment-là, on n'en est pas complètement sorti, me semble-t-il. Si on devait séquencer, et qu'est-ce que tu dirais du coup sur cette espèce de renversement peut-être, ou de tentative de renversement, de captation, je sais
en
pas comment
cas,
il faut dire.
Dans les termes gramsciens, une difficulté d'hégémoniser par ces partis, ces passages des populismes de gauche au pouvoir, leur vision politique.
Oui, Espagne et Grèce, tu dis, parce qu'en France, ils n'arrivent pas au pouvoir, et puis en Italie, ils ne restent pas longtemps.
Voilà, en Italie, il y a eu quand même des changements. Enfin, dans tous ces cas, il y a eu des changements considérables. Mais en fait la parabole de ces partis au pouvoir est effectivement assez déprimante, parce que et ça c'est quelque chose, c'est caractéristique aussi des moments populistes. Les moments populistes sont des moments très maximalistes. La critique de la démocratie, en fait, c'est comme si la démocratie arrivait au bout de son logiciel. De son logiciel aristocratique et oligarchique, parce qu'il y a cet ADN là dans le gouvernement représentatif. On élit les meilleurs, les plus riches, les bon. Alors on le sait, enfin hein, la dernière, les données sur l'Assemblée nationale sous Sarkozy, sous Macron, enfin on a affaire à peut-être 2% de classe populaire dans l'Assemblée nationale. Enfin c'est une dynamique qui est liée au gouvernement représentatif. Et donc quand ça, en quelque sorte, quand le pouvoir de l'argent et le pouvoir politique deviennent trop évidents dans leur articulation, il y a des moments populistes. Et les bons populistes sont des moments utopiques, c'est-à-dire des moments de critique où on se dit on va refaire la démocratie, on va refonder la démocratie. Et ça, on l'observe dans le programme de tous ces partis. Ils avaient une dimension maximaliste, même si après, pour des révolutionnaires, ça paraît assez réformiste, vous voyez. Mais en même temps, il y a eu des avancées. Enfin, je vais dire, le programme que Podemos a conclu avec le PSOE au moment du gouvernement conjoint, c'est le programme le plus avancé qu'un parti de gauche ait porté au pouvoir dans les 20 dernières années. Ce qui est déprimant.
Peut-être plus même.
Bon, peut-être plus même. Ce qui est déprimant parce que ce qu'ils font, c'est tout simplement mettre en place des mesures keynésiennes et de redistribution qui étaient complètement, pas consensuelles, mais qui étaient assez banales dans les années 60 et 70. Voilà. Et c'est exactement ce qu'a proposé le mouvement 5 étoiles avec sa politique de dépenses en déficit, notamment sur toutes les mesures de rénovation énergétique. C'est une politique keynésienne de relance par l'investissement qui a été caractérisée comme communiste ou éversive par les partis au pouvoir, et notamment par Giorgia Meloni, qui s'est empressée d'éliminer le RSA, le revenu de citoyenneté, qui est l'analogue du RSA en France, et toute la politique keynésienne qu'a mis en place le mouvement 5 étoiles dans son deuxième gouvernement avec le Parti Socialiste.
Et alors, est-ce qu'il existerait un populisme d'extrême droite possible ? Est-ce que tu crois que ça a du sens, ça ?
Non, historiquement, ça n'a pas de sens. Ce serait un contresens de dire ça. C'est comme si on disait, voilà, il pourrait exister un fascisme de gauche. En fait, on serait en train de comparer des choses qui, historiquement, sont pas comparables, ou en tout cas, pour lesquelles on ne donne jamais d'argument définitif pour la comparaison. Alors, si on veut dire, par exemple, fascisme de droite, fascisme de gauche, il y a des autoritarismes de droite et de gauche, là, on est d'accord. Bon, voilà. Mais populisme de droite, populisme de gauche, ça suppose effectivement de télescoper deux lignes historiques qui ont procédé de façon divergente et qui ont des histoires complètement différentes. Et donc, si on dit aujourd'hui, voilà, il y a effectivement en France le Front National et le Rassemblement National et la France Insoumise. Entre ces deux mouvements, il y a davantage d'affinités que de différences. À ce moment-là, on peut utiliser le terme populisme pour qualifier les deux en indiquant qu'il y aurait une matrice commune. Mais je reste persuadé que historiquement et sociologiquement, il y a plus de différences que d'affinités. C'est-à-dire qu'il y a plus d'affinités entre le RN et la droite, dans ses différentes composantes, et la France Insoumise et la gauche, dans ses différentes composantes, contre ces deux extrêmes. Et donc, ce qu'on appelle populisme de droite devrait être catégorisé autrement. C'est-à-dire qu'on devrait avoir une stratégie de comparaison de tout ce qu'on met dans le populisme de droite, qui serait différente et où on renverrait en fait ces partis et ces mouvements à d'autres expériences historiques, à d'autres traditions, à d'autres idéologies et donc à d'autres modalités de politisation, notamment des classes populaires. Parce que là est l'enjeu. Hein.
Merci Federico. On va peut-être s'arrêter là-dessus. Je rappelle le titre de l'ouvrage sur lequel on s'est essentiellement appuyé ce soir, c'est L'esprit démocratique du populisme, qui est paru en 2019 à La Découverte. On aurait pu parler un peu d'émancipation, mais les questions fines et percutantes de Jean-Mathias ont pris un peu le pas sur les courtes. Ont pris un peu le pas sur ce qu'on devait dire, mais voilà, merci.
Bon, je reviendrai.
Et oui, donc on se quitte avec un morceau de Colaboy, All Power to the People. In the name of self-defense, I just want to tell you. Colaboy says...
Le mouvement anarchiste,
une cause militante, presque insurrectionnelle.
Nous sommes battus.
On peut faire de la musique militante tout en faisant de la pop.
La culture peut changer les choses.
Et que ce soit le peuple qui puisse se faire entendre
contre le pouvoir en place.
Les gens qui ont refusé toute autorité d'où qu'elle vienne.
Tous les chefs du gouvernement représentent le pouvoir. Et en politique, le pouvoir est forcément une forme de la lutte contre le peuple.
Bonsoir à tous et à toutes. Ce mois-ci, on se retrouve pour une émission un peu spéciale car on vous propose une sélection de morceaux parlant d'écologie radicale au sens large. On va vous proposer un ensemble de morceaux dans différents styles de musique traitant de différents sujets. Ça ira autant des causes animales aux luttes territoriales en passant par des critiques du capitalisme. Thème. Et pour commencer, on va s'attaquer à une partie punk et hardcore avec en premier un morceau de Regan Youth, le morceau Acid Rain, sorti en 84. Dans cette chanson, le groupe dépeint un monde dystopique dans lequel il est conseillé à un enfant de ne pas sortir jouer dehors. Son père le met en garde contre les pluies acides et insiste pour qu'il se cache dans la cave et prie. Dans le second couplet, le chanteur raconte que les usines balancent dans l'air des poisons toxiques et même mortels. Et en tant qu'anarchiste, le groupe fait référence au système capitaliste qui détruit et qui s'en fout.